Je pense que ça doit être là, ce grand portail, là. Il y a un monsieur à la fenêtre. Monsieur ? Excusez-moi, on est bien chez Madame Théa ? Ah, magnifique. Bon, on y va.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
Lune range dans la cuisine la papaye verte, les tomates cerises, le piment rouge thaï et le nuoc mam. L'autre arrange ses cartons de dessin sur les genoux. Lune coupe l'extrémité de la papaye et le piment en dés, pendant que l'autre dessine le saladier qui accueille papaye, piment et petites tomates. Lune, Liliane, est la mère de l'autre, Christelle. Ensemble, Liliane et Christelle Théa, qui ont peut-être d'autres prénoms planqués dans les tiroirs, publient au bonheur 70 recettes qui font voyager les papilles entre le Cambodge, la Thaïlande, la Chine et le Vietnam. Encore une histoire d'exil parfumé aux saveurs d'autrefois, entre pousses de bambou et champignons shiitake. Encore une histoire d'arrachement à Phnom Penh et d'accommodement à la France. Encore une jolie petite famille où il fallait pleurer pour aller au musée, mais où la musique n'a jamais été oubliée. Conversation en sol majeur entre une table bien dressée et une préparation de crevettes à l'ail derrière les fourneaux. Avant le premier choix musical de Liliane, petite arrivée sur le perron d'une maison de banlieue, souriante et accueillante.
Enchantée.
Merci de nous accueillir chez vous, merci. Par ce beau temps. Oui. Je laisse mon parapluie par terre.
Hein. Oui, je mets là.
Merci.
C'est gentil, non, je vais avoir besoin de tout.
Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with
A, B, C.
When you sing, you begin with Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Oh, let's see if I can make it easier. Do, a deer,
a female deer.
Re,
a drop of golden sun.
Mi, a name I call myself. Far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread.
La,
a note to follow some.
Tea,
a drink with jam and bread. That will bring us back to Dow.
Oh, oh, oh,
Dow!
A deer, a female deer.
Ray,
a drop of golden sun.
A name I call myself.
Far, a long, long way to run.
So, I need a pulling thread.
La,
a note to follow song.
See,
a drink of jam and bread.
That will bring us back to dough.
A deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. A long, long way to run.
So, a needle for your friend.
La,
a note to follow so.
Tea,
a drink of jam and bread. That will bring us back to do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, so, do.
Ah, il y a comme une petite sensation de cocooning dominical sur RFI avec cet extrait de La Mélodie du Bonheur composée. Bon, je le rappelle comme ça, hein, à la bonne franquette, à Broadway en 1959, et qui séduit toute la famille. Théa, vous êtes en train de chanter en chœur, mère et fille. Liliane, vous êtes séduite absolument par la mélodie du bonheur que vous connaissez par cœur.
J'ai appris ça à Singapour, cette musique.
Comment ça se fait que vous avez appris cette chanson à Singapour ?
Dans la classe. Et après, j'ai demandé à regarder le film quand j'arrivais en France. J'ai toujours adoré ce film et cette musique.
Et vous chantez avec votre fille, alors vous avez fait des cours de chant ensemble, Christelle, parce que vous chantez en chœur cette chanson.
Quand on était petit, ma mère regardait beaucoup les comédies musicales, Gigi, The Sound of Music, et du coup on regardait avec elle et on adore la comédie musicale. Et oui, on chante aussi ensemble.
Oui, vous pianotez aussi sur la table hein, en même temps, comment ça se fait ça?
Ah, j'ai commencé à l'âge de 10 ans le piano, et après j'ai fait du chant lyrique grâce à ma mère. Elle nous a donné la chance de pouvoir faire de la musique à jeune âge. Parce que quand elle était jeune, à Singapour, elle faisait du piano. Mais à cause de la guerre d'Akhmer-Rouge, quand elle est venue en France, son père lui avait promis de continuer le piano. Et malheureusement, elle n'a pas pu, à son enfance, reprendre le piano. Et quand on est née, tout de suite, elle nous a mis au conservatoire, à l'éveil musical. Et...
Oui, c'est vrai, je l'inscris à l'âge de 4 ans. J'attends patiemment qu'elle ait 4 ans pour vite l'inscrire au jardin musical.
Vous rêviez de quoi pour elle?
Bah, fais ce que je n'ai pas pu faire.
Menthe, paprika, fraises de bois. Quelles sont les odeurs de votre enfance?
Ça me rappelle mon enfance. Oui, on regarde tout le temps la télé avec ses musiques le soir au Cambodge.
Dans la cuisine, qu'est-ce qui vous revient quand vous repensez à votre enfance? Des premiers goûts.
Je ne saurais expliquer.
Les crevettes au canne à sucre?
Ah oui, crevettes au canne à sucre qu'on a mangées avec mon père à mi-chemin de l'aéroport. Et plein d'autres plats au marché avec ma grand-mère. Chaque matin au marché avec une sorte de taxi à vélo.
Et les odeurs de pluie?
Ah oui.
Tu racontais que des fois vous prenez des douches comme ça.
Oui, parce que la pluie, c'est pas des fines pluies, c'est vraiment des cordons de pluie très lourds, très pesants comme ça. Et nous, on est très contents tout de suite. On sort de la maison entre cousins, on est 5 ou 6 et s'amuser sous la pluie. On était 5, 6, 7 ans. Et c'est une pluie chaude et on tombe jamais malade.
D'où vient votre famille, Liliane?
Mes parents sont nés au Cambodge, moi-même aussi. Et mes grands-parents sont venus de Chine, de Canton, pendant la Deuxième Guerre mondiale.
1930, à peu près.
Oui, je pense. Suite d'une mauvaise économie, ils recherchent une meilleure vie. Et ils sont arrivés en bateau, arrivés au Cambodge.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait au Cambodge pour vivre?
Mon grand-parent maternel est un pâtissier, pâtisserie chinoise, classique.
C'était quoi votre gâteau préféré ou votre gourmandise préférée?
Gâteau de lune, des nougats. C'est si parfumé, si frais, à chaque fois je passe dans son pâtisserie, on est bien gâtés.
Alors vous êtes née, vous, Liliane, en 1964, à Phnom Penh. Il y a le Phnom Penh tragique des années 75-79, mais avant ça, il y a le Phnom Penh des années 60. Petit rappel en sol majeur, entre 75 et 79, le régime Khmer Rouge élimine presque 2 millions de Cambodgiens, c'est-à-dire un quart de la population. En 2010, le réalisateur Ritipan filme Duk dans sa cellule où il est écroué pour crime contre l'humanité. Duk, ayant dirigé de 76 à 79 S-21, véritable machine de mort où périrent 12 380 personnes. Et ce qu'on entend là, c'est la voix de Pol Pot qui dit « Malgré les souffrances énormes que nous traversons et les séparations difficiles à la ville comme à la campagne, notre voix est juste et notre parti dirige avec clairvoyance. Liliane, vous avez quitté Phnom Penh toute jeune, à 8 ans, avant l'arrivée des Khmers Rouges. Est-ce que vous savez ce qu'est devenu votre famille restée là-bas ?
Oui, les grands-parents maternels et le grand-père maternel et beaucoup d'oncles et tantes et cousins et cousines. Et jusqu'à maintenant, on n'a plus de nouvelles. On a fait des recherches de temps en temps depuis, mais on n'a plus de nouvelles. Peut-être ils sont peut-être décédés par les Khmers Rouges. Mon père a fait beaucoup de recherches par des gens et sur place, etc. Mais moi-même, je n'ai pas vécu, mais j'ai beaucoup entendu par des proches. Je regarde les films et je sens cette atrocité. Ouais.
Est-ce que vous avez suivi le procès de Douk et de deux autres dirigeants du régime Khmer Rouge qui ont eu lieu autour de 2017-2018 de mémoire?
Oui, de temps en temps à la télé, j'en ai vu des émissions cambodgiennes, génocide, et tout de suite je me suis précipitée pour regarder, suivre.
Et qu'est-ce que vous ressentez?
Une tristesse, une injustice. S'il n'y aura pas cette guerre, mes parents sont toujours là, mes proches. Cette guerre est stupide. Il fait mourir les gens innocentes.
Christelle, est-ce que vous avez suivi? Vous êtes jeune, vous avez quel âge aujourd'hui?
Moi j'ai 35 ans.
Ouais. Vous n'avez pas vécu la guerre, bien sûr, ouais. Mais vous êtes reliée à cette histoire. Est-ce que vous le sentez, ça? Est-ce que vous le vivez, ouais, comme ça?
Ouais, moi je le sens parce que du coup mes arrière-grands-parents, ils ont, vers 1930, à cause de la guerre avec les Japonais, la grande famine, du coup ils ont dû fuir la Chine dans le canton. Ils sont venus au Cambodge reconstruire l'économie. Ensuite ils ont dû encore tout reconstruire, quitter le Cambodge à côté des Khmers Rouges. Et donc à chaque fois à cause des guerres, bah, faut recommencer à zéro. Quand j'apprends que, par exemple, ils prennent le civil, ils éliminent tous ceux qui ont des lunettes parce qu'en fait ils savent lire. Je trouve ça dur, quoi. Ou, par exemple, les intellectuels. Et par exemple, j'ai une tante qui a été dans les camps. En fait, on n'arrive pas à lui faire parler. Nous, on aimerait savoir, la nouvelle génération, comment ça s'est passé, parce qu'elle est témoin. Et elle, c'est un traumatisme. Elle ne peut pas raconter ce qu'elle a vécu. Et nous, on aimerait en savoir plus.
Alors, avant Douk, on entendait un certain Sin Sisamut, qui ne vous a pas arraché un sourire. Je suis un peu déçue. C'est un chanteur de charme cambodgien qui était très célèbre dans les années 70 et qui a sans doute été éliminé par les Khmers Rouges. C'est pour vous reconnecter un tout petit peu à cette enfance si courte que vous avez eue à Phnom Penh, Liliane.
Quand j'écoute, le souvenir me revient. Bah, je vois le prince Sihanou dans un grand
cortège
qui passe dans notre rue en lançant des tissus neufs. Je ne sais pas, c'est une tradition, il passe comme ça, il lance. Voilà, ça me rappelle ça. Et puis ça me rappelle aussi, ma grand-mère nous a emmenés au cinéma voir un film de serpent sur la tête d'une fille. C'est un film très connu.
C'est Méduse, avec plein de serpents, non, des petits
vrais
serpents.
Oui, des vrais serpents sur la tête, toute sa tête. Oui, et c'est un film romantique, etc. Ouais. Je ne m'appelle plus trop. Ouais.
Est-ce que, si je vous demande quel est le dernier souvenir que vous avez de Phnom Penh, est-ce qu'il y a une image qui vous revient?
Bah, ma maison, les magasins de mes parents, l'école, le marché, la ville Banam, qui se trouve, je crois, 2-3 heures de Phnom Penh, que nos parents nous emmènent pour voir nos arrière-grands-pères qui habitent dans cette ville, qui a une super grande maison. Et un grand potager devant que j'adore quand j'arrive avec les cousins. On est allé cueillir des fruits, tout ça. Il y a une rivière, que je vois ma tante qui emmène les linges pour laver dans la rivière. Et ils se baignent aussi dans la rivière et qui nous raconte souvent qu'il y a une sorte de fantôme dans l'eau. En nageant, et ben, il vous tire vos jambes, après vous pouvez être noyé ou mort, ça fait peur. C'est une ville, je crois, c'est pas loin, la frontière Vietnam, c'est pour ça ma grand-mère, elle parle beaucoup vietnamien, mais mon père aussi. et la plupart des membres de la famille paternelle parlent vietnamien.
Alors justement, c'est bien que vous nous parliez des langues. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, aujourd'hui, quand vous entendez la langue khmer?
C'est joli. Je comprends plus que j'en parle. Je n'ai pas beaucoup l'occasion d'en parler à la maison. Encore moi, j'ai beaucoup l'occasion d'entendre et ça forme les oreilles.
Parce que vous dites une chose qui peut surprendre. Vous dites que votre langue maternelle, c'est le français.
Oui, parce que j'ai pas l'occasion d'aller faire des études chinois. J'en ai fait que 3-4 ans, c'est tout, à l'école primaire. Et après, quand je suis arrivée en France, je poursuis toute la scolarité jusqu'au bac, etc. Et je me sens, comment dire, bien imprégnée de cette langue. Et des fois, quand je pars avec ma fille en chinois, et à un moment, j'arrive plus à parler parce que les mots de chinois qui me manquent. Je bascule en français, que je me sens plus à l'aise et plus fluide pour parler. Et je parle en chinois et je lis plus que le cambodgien.
C'est quoi votre prénom de naissance?
Li Hui. Li, ça veut dire joli. Hui, ça veut dire intellectuel.
La jolie intellectuelle.
Et en Tetsu, c'est une autre prononciation?
Li Hui.
Li Hui.
Et mes frères aussi, c'est Ma Li Hui, c'est moi. Ma Li Chong, Ma Li Min, Ma Li Bak. C'est les dernières syllabes qui changent.
Pourquoi vous avez choisi ce prénom, Liliane?
Je m'appelle lors de ma nationalité française. C'est une dame de la préfecture qui m'a dit il faut choisir un prénom français. Je suis d'accord, et puis je ne sais pas trop lequel choisir, elle m'a aidé à choisir. Elle m'a dit, Liane, ça se rapproche de votre prénom, Li Hui. C'est pour ça que j'ai choisi ça.
Et vous vous sentez bien dans ce prénom, ou intérieurement vous êtes toujours dans le prénom cambodgien?
Avec le temps, je me suis habituée à ce prénom Liliane.
J'ai la chance d'avoir le gaz à la maison. Mm-hmm. C'est très difficile de cuisiner sur électrique.
Ouais.
On a l'habitude au restaurant avec les feux de dragon, très puissants, et on peut sauter un plat en quelques secondes. Et c'est pour conserver les saveurs et puis les légumes croquants, cuits, avec tous les vitamines. Ouais. Pour faire la friture de l'huile d'arachide, c'est meilleur que l'huile tournesol, qui a plus de puissance.
Dans mon souvenir, Liliane, je crois que vous avez fait des études de sage-femme. C'est vrai?
Je voulais faire les études de sage-femme, sauf que je n'avais pas encore la nationalité française. Donc j'ai passé le concours d'infirmière et je suis prise. Et j'ai arrêté après, malheureusement.
Malheureusement, vous regrettez?
Oui, j'ai un peu regretté maintenant. J'aurais pu avoir un diplôme dans la poche. Parce que pendant ces 2 années, j'ai beaucoup appris. Très intéressant, on est dans les différents services. Service réanimation, service urgence, service pédiatrie. Et puis j'étais dans différents à Clama aussi, où j'ai vu les bébés en éprouvette, leur laboratoire. Et j'ai beaucoup appris. C'était très intéressant ces 2 années.
Qu'est-ce qui vous a étonné le plus quand vous êtes arrivée en France?
Étonné dans le bon sens ou dans le...
Dans les deux sens.
Dans les deux sens.
Il y en a plusieurs apparemment.
Oui. Mon premier jour, mon père m'a emmenée dans une boulangerie, découvrir la boulangerie, le pain, les baguettes, les gâteaux, la viennoiserie. Et puis la langue aussi. J'étais en première année de langue initiative dans un collège dans le Paris 18e, comme j'habitais dans le 17e. C'était une classe d'initiative pour toutes les nationalités, de tous les âges. Et on a un professeur, Madame Bloch, je me rappelle toujours d'elle, très douce et très patiente. Et c'est pas facile d'apprendre la langue française. Et je fais partie de la classe. J'adore la langue. Et après, en deuxième année, comme vu mon âge, on m'a mis en sixième. Je me rappelle, c'est trop dur. Je comprends rien du tout, sauf le cours de maths, le cours d'anglais. Et j'ai fait beaucoup d'efforts.
Vous avez même fait vos devoirs pour en sol majeur, parce que je vois que vous avez préparé tout ça pour l'émission. Vous m'avez donné une image sur les choses qui vous ont étonné en arrivant en France.
Oui.
Quelqu'un qui lit un livre sur une pelouse, ça c'était du jamais vu avant.
Parce que quand on est arrivé, on est dans un camp de réfugiés, je ne sais pas où, je sais c'est en banlieue, et puis tout à coup j'ai vu une jeune étudiante avec un livre dans la main en train de lire. C'est une scène que j'ai jamais vue ça.
Et alors les choses que vous n'aimez pas en France, parce que vous avez fait la nuance tout à l'heure.
Je n'ai pas grand-chose qui me dérange, sauf une chose, j'ai souvent entendu par la famille ou les amis. Je pense que c'est peut-être une différence de coutume, parce que chez nous, au Cambodge, j'ai toujours grandi au Cambodge, malgré que je suis d'origine chinoise, les amis qui s'en viennent à la maison à l'imprévu, même si on est en train de manger, on lui offrir un bol de riz en plus, et puis on mange tous ensemble, parce que ce sont des 7-8 plats au centre de la table, on partageait. Mais en France, c'est les amis qui m'ont raconté, ils m'ont dit que si jamais on est allé par surprise dans une famille française, lorsqu'ils sont en train de déjeuner, ils nous font attendre jusqu'à ce qu'ils finissent de manger, et puis ils commencent à parler avec nous, et moi je ne sais pas, ça me choque, mais je n'ai pas vécu.
En tout cas, dans votre vie à vous, Liliane, on est toujours chez vous, hein, oui. Liliane Théa, à Ponto Combo, près de Paris. Dans votre vie de femme, sont arrivés l'amour, la rencontre d'un mari qui est en train de nous filmer d'ailleurs, la popote en famille avec un restaurant au bonheur. Et une petite fille, enfin, vous avez eu plusieurs enfants, je ne sais pas.
J'ai trois enfants.
Trois enfants, mais assise à côté de vous, une petite fille devenue grande et surtout une toujours très grande amoureuse des grandes voix. Une chanteuse lyrique pour un sol majeur. Oui, il faut avoir l'âme lyrique aujourd'hui avec un petit gounod des familles et ce Roméo et Juliette pour vous servir avec la voix de la Calas. Donc vous avez, Christelle, chanté énormément la Calas.
Avec la Calas, oui, j'apprécie beaucoup sa voix et la façon dont elle interprète parce qu'elle a une telle profondeur. Ouais, c'est un personnage, quoi.
C'est quoi votre tessiture à vous?
Moi, je suis soprano léger. Et du coup, c'est plutôt des airs de soubrette.
Vous avez un signe particulier, Christelle, c'est que vous portez des chapeaux.
Oui, du coup, le chapeau, c'est ma signature. J'en porte tous les jours, sauf pour aller nager ou faire du sport. Et donc, ça, c'est un Isée, modèle Isée, créé par une chapelière, Mademoiselle Chapeau. Ça, c'est une création contemporaine.
Ouais. Mais elle ne s'inspire pas d'une époque particulière?
Peut-être les années 40, 50, 60. C'est vrai que dans ces années-là, on portait beaucoup de chapeaux. Parce que si on lâchait les cheveux, c'était un peu fille de joie. Donc, hop, hop, hop. Mais moi, j'aime bien le chapeau, parce que c'est comme un bijou. Moi, j'ai une tête à chapeau.
C'est vrai. Hop, 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 vous êtes une fille de rêve. Est-ce que, comme ce morceau qu'on vient d'écouter de Gounod, vous souhaitez vivre dans un rêve, vous aussi?
Ouais, c'est vraiment, je vis à l'instant T.
Et dans l'art?
Et dans l'art aussi, ouais.
Et ça, c'est un rêve, non?
Oui, c'est un rêve inimaginable. Je pensais pas que c'était un métier. Et ouais, c'est un luxe de faire ce qu'on aime.
Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Le Premier ministre a dit vouloir réformer l'assurance chômage. La durée d'indemnisation de plusieurs mois.
Comme fille de.
Christelle Théa, si vous deviez définir de qui vous êtes la fille, vous diriez de quoi?
Oh là.
Devant eux, c'est compliqué. Il y en a... Papa filme pendant que maman écoute.
Papa, je suis désolée, mais... Mais c'est vrai que je tiens du courage de ma mère et de la ténacité de travailler dur. Bon, en fait, des deux parents, en fait. Mais de travailler dur et d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire. Surtout, il faut réussir à l'école parce qu'en fait, d'origine chinoise, si on réussit pas à l'école, c'est pas qu'on va se pendre, mais c'est important, quoi, la réussite. Parce que les parents se sacrifient et il faut qu'on réussisse.
Donc, une fille de cuisinière, comme vous, Christelle, ça dessine, du jour au lendemain.
Oui, parce qu'en fait, mes parents, ils allaient tous les jours au restaurant. Et du coup, comme les soirées étaient un peu longues...
Au restaurant où ils travaillaient,
donc. Ils travaillaient dans le 15e arrondissement. Et du coup, ma sœur et moi, on fait les devoirs, on joue. Mais à un moment, on ne sait plus quoi faire. Et ma mère m'a passé le bloc-notes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner.
Vous dessinez quoi?
Au départ, je dessinais des robes, des maisons, des jouets... des personnages, des super-héros, beaucoup d'imagination, mais aujourd'hui, je dessine vraiment ce que je vois.
Il ressemblait à quoi, ce restaurant, dans votre souvenir?
Ah, moi, c'était l'ambiance chinoise, ça sentait bon, les petits plats fumés qui arrivaient, bœuf au basilic. Moi, j'avais un plat préféré, c'était les ailerons de requin. On entendait des cling-cling des verres, il y avait la plonge, la petite musique chinoise d'ambiance. Je crois que c'était années 60, les clients qui parlent. Et à l'époque, les gens fumaient. Ouais, comme un petit cocon, la vie, quoi.
Est-ce que c'était évident pour vous de faire un jour les Beaux-Arts de Paris?
Non, parce que c'était pas, j'avais pas prévu de faire des études d'art. J'ai fait un bac scientifique. Après le bac S, j'ai tenté l'école Olivier de Serres, qui est une école d'art appliqué dans le 15e. Et quand j'avais visité l'école, j'ai trouvé que c'était génial. Il y avait des pianos partout, il y avait de la musique, côté hyper festif. Et du coup, j'ai tenté cette école et j'étais prise directement.
Avant ça, vous avez fait, je crois, un lycée de banlieue qui s'appelait Camille Claudel. C'est peut-être un signe. Au tout début de ce cursus, vous souhaitiez quoi? Faire quoi, en fait?
Quand je suis arrivée en école d'art, je découvrais l'art. Et un de mes professeurs m'a dit « Oh, toi, avec ton profil, je te verrais bien Beaux-Arts de Paris. » Mais moi, Beaux-Arts de Paris, je m'attendais vraiment à des artistes qui vendent des peintures dans la rue. Du coup, j'avais pas une très bonne image de l'artiste. Et finalement, il m'a dit « Bon, les concours, c'est dans une semaine, vas-y, tente le coup. » J'étais prise aux deux, mais c'est en entrant aux Beaux-Arts de Paris, j'ai découvert le lieu, l'univers, c'est tellement beau. Que je me suis dit, c'est vraiment dans cette école que j'aimerais entrer, même si je ne sais pas qu'est-ce qu'on y apprend.
Mais ce qui est intéressant, et je ne sais pas ce que Liliane en pense, c'est que vous avez plein de jardins secrets, en fait. On vous a un tout petit peu entendu fredonner du Gounod. Je crois que vous aimez aussi Mozart. Est-ce que ça vous arrive de jouer les Noces de Figaro de Mozart au piano?
Les Noces de Figaro, non, mais je dois le travailler en ce moment. C'est avec mon professeur Jean-Louis Paya, qui est baryton, qui me donne des cours.
Petite révision en sol majeur, s'il vous plaît.
Non ti andrai farfallone amoroso, notte in giorno ti torno girando, e le belle trovando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. E le belle trovando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Non ti avrai questi bei bennacchini, quel cappello leggero e gallante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante.
Allora, ça c'est les crevettes décortiquées à queue. Bien essoré pendant une nuit au frigo pour mieux travailler. Là, je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre, un peu de pincée de sucre. Ensuite, mes cinq parfums, piment de Sichuan.
Ça. On trempe la crevette dans la pâte.
Oui. On laisse couler un peu. Et on fait ça.
Voilà, c'est un petit coup de fouet comme ça, lyrique, avec Mozart dans votre belle maison de Ponto Combo près de Paris, chez vous, Liliane et Christelle Théa. Vous avez une fille artiste, Liliane. Est-ce que ça vous remplit de bonheur ou est-ce que ça vous inquiète?
Je me sens remplir de bonheur. Mon objectif est atteint.
Ah, vous faites avec le pouce comme ça, c'est un lever de la victoire, Christelle?
Lever de la victoire, oui, c'est chouette. Bah, c'est vrai que quand on vient d'une famille chinoise, quand on dit de faire de l'art, c'est pas... On n'a pas l'habitude, quoi. Les parents souhaiteraient plutôt qu'on soit ingénieur, on fait du commerce, avocat, médecin. Mais de l'art, du coup, je suis la première artiste dans la famille, c'est chouette.
Et vous hésitez, vous avez hésité à un moment donné entre le dessin, le chant lyrique?
C'est vrai que moi, j'adore le chant, mais après, je préfère être artiste dessinatrice parce qu'on est un peu le compositeur, on est un peu le maestro. J'ai pas besoin d'être interprète, je passe pas de casting, enfin je suis libre.
Aujourd'hui, vous dessinez dans le monde entier, Christelle Théa, et je crois comprendre qu'en fait que ce sont les lieux qui vous inspirent.
Oui, ce qui m'inspire, ce sont les lieux, surtout le détail. Là en ce moment, j'adore, c'est New York. C'est une ville qui m'inspire parce que ça me fait penser à West Side Story, les comédies musicales, les films, les blockbusters.
Mais qu'est-ce que vous dessinez de New York, par exemple?
Je dessine dans la rue, les escaliers, les fire staircases. Moi, je me promène, je me pose avec mon siège et je dessine.
Avec un sens du détail assez exceptionnel, je trouve.
Oui, j'adore le détail parce que comme je suis assez myope, ouais, j'adore la finesse du trait.
Donc la ville de New York, mais la ville de Paris aussi. Vous avez dessiné les toits de Paris.
Oui, j'adore Paris. Les toits, de voir différents points de vue, l'Opéra Garnier, le Sacré-Cœur. J'ai dessiné depuis la coupole des Invalides, du musée de l'armée, du tribunal de commerce, de la Tour Eiffel.
Alors, on a un livre là, magnifique. Ouais. Il est paru chez qui, ce livre?
Alors, il est paru par la Fondation Custodia, qui est distribué par les Belles Lettres. Et du coup, ça, c'est mon dernier ouvrage. Et c'est à l'initiative de Rare Lutten. De Rare Lutten, l'ancien directeur qui, malheureusement, est parti au ciel. Ah, ça, c'est son portrait, Rare.
C'est marrant.
C'est à l'encre de Chine, ce dessin ?
C'est à l'encre de Chine, 50 x 65 cm. Et c'est réalisé directement sur le vif, in situ. Du coup, il était devant moi. Et je l'ai dessiné dans son bureau, une sorte de salon hollandais. Moi qui n'avais jamais été à Amsterdam ou en Hollande à l'époque. Du coup, je découvrais un peu l'univers avec le marbre au sol, la boiserie, les objets, les peintures.
Vous sauriez définir votre style ? C'est drôle parce que je ne sais pas pourquoi, ça n'a rien à voir, mais je pense à Sempé.
Ah oui, parce que moi, quand j'étais en école d'art à Olvieter, on me disait souvent, ou même au Beaux-Arts, on me disait « Oh, ton trait, ça fait penser à Sempé ». C'est parce que, en fait, le trait, c'est à l'encre de Chine, c'est vrai, et c'est des dessins au trait, en fait, à la ligne claire. Et un jour, je me rappelais, quand on m'avait dit ça, on m'avait dit « Oh, vous devrez rencontrer Sempé ». Et du coup, comme c'est à côté des Beaux-Arts, je suis allée au Café Flore, j'ai attendu Sempé toute l'après-midi. On m'a dit qu'il était souvent là. J'ai attendu, j'ai vu personne, mais par contre, j'ai réussi à avoir une commande.
D'accord. C'est joli comme histoire d'attendre Sempé, qui n'est jamais venu.
Oui, j'étais un peu naïve à l'époque, mais...
Donc, vous diriez que votre style, quand même, va se nicher du côté du romantisme, de... Non. Pas, en fait, dans votre dessin, mais dans vos inspirations. Parce que je sais que vous aimez Delacroix. Vous aimez beaucoup Ingres, aussi. Oui. On est dans l'orientalisme et le romantisme, là.
Oui, j'aime beaucoup ces artistes-là, parce qu'en fait, le dessin est très précis, et ils dessinent beaucoup la réalité. Mais je pense que mon univers, c'est vraiment le fourmillement de détails. C'est pas construit, et le dessin, il n'est pas prémédité. C'est vraiment au moment, quand je le crée, en fait, il se développe un peu comme un lierre, comme un puzzle. Peut-être qu'il y a un côté onirique. En fait, c'est drôle parce que quand j'étais aux Beaux-Arts de Pékin, à la CAFA, pour
mon échange... Ah, vous avez fait les Beaux-Arts de Pékin ?
Oui, c'était un échange universitaire.
Enchanté.
C'était pour retrouver mes racines, mais comme j'avais jamais vécu en Chine, je suis chinoise, mais je suis née en France, donc je me considère comme française. Et du coup, ça m'a permis de retrouver mes racines, voir comment pensent les Chinois, mes camarades. J'ai fait de la gravure sur bois. Et eux, à travers mon dessin, c'est très différent des Occidentaux. Ils peuvent percevoir la personnalité de la personne rien qu'en voyant votre dessin.
Oui.
Dire « Oh, tu es quelqu'un de calme, patiente. On voit que tu es quelqu'un de sincère. » Et là, je le regarde et je me dis « Oh là là !»
C'est comme la graphologie, quoi.
Ouais, c'est ça. Et c'est une autre philosophie, on voit différemment le dessin.
Qu'est-ce que vous pensez des dessins de votre fille, Liliane ?
C'est magnifique et elle a donné beaucoup de charme pour mes plats.
Ah oui, la cuisine, c'est la vie, c'est là où on mange.
Comment vous la dessineriez, cette cuisine ?
Moi, je la dessinerais chaleureuse. En fait, c'est la cuisine de mon enfance. Ça me rappelle tellement de choses.
Donnez-nous l'image.
Alors maman qui, quand elle est petite, déjà elle regardait à côté, il y a le salon, du coup elle regardait les émissions de Joël Robuchon et de Maïté. Et nous on était là, on devait noter les ingrédients. Moi j'ai une mauvaise mémoire, ma sœur elle notait tout. Et la cuisine, après maman elle testait les plats directement. C'est comme un laboratoire, elle avait toutes les notes, elle testait toutes les quantités, elle rajoutait, elle corrigeait. On était comme des cobayes, mais délicieusement. Ouais, moi, j'aime pas trop la routine, du coup, chaque jour c'était différent.
Fabrice, quel est le prix de cette lotte poêlée aux bornoisettes avec ce confit de poireaux au vieux jambon et jus de coquillage ?
Environ 9 euros par personne, Joël.
Alors, sautez sur vos poils.
Au revoir.
Et bon appétit, bien sûr.
Qu'est-ce que vous adorez manger avec les doigts ?
Alors, avant de répondre à cette question en sol majeur, c'est qui ce Joël Robuchon, Liliane ?
C'est mon chef adoré. C'est grâce à lui que j'ai appris la cuisine. Je ne faisais pas la cuisine du tout. Quand mes parents, ils ont des restaurants.
Et, chef et... cuisinier qui a eu quand même 32 étoiles sur le guide Michelin. C'est pas n'importe qui.
Oui, et je trouve que c'est un bon chef. Il est généreux. Il nous a donné toutes les techniques. Il nous raconte tout. C'était merveilleux. Avec lui, j'ai beaucoup appris, et aussi avec Maïté aussi. Voilà.
Qu'est-ce que vous aimez de la cuisine française ou de la gastronomie française? Alors,
J'adore tout. J'adore la choucroute, cassoulet.
Vous avez noté.
Oui, j'ai noté.
Pour pas oublier.
Steak frites, bien sûr. Les lentilles, bouchées à la reine, quiche, pot-au-feu, bourguignon.
Et tout ça, vous savez le faire?
Sauf la choucroute. Endives au jambon, gratin pommes de terre, salade frisée lardon, soupe à l'oignon, gratinée. Je suis en train d'expérimenter de faire la soupe gratinée, mais pas tout à fait au point. C'est pour ça que je suis allée partout dans le restaurant où ils vendent la soupe à l'oignon pour savoir le vrai goût. Voilà, certains, je suis déçue, certains sont bons, mais voilà.
Et alors, qu'est-ce que vous adorez manger avec les doigts?
Les nems, les rouleaux printemps.
Pareil. Christelle?
Oh, la cuisine indienne.
Les nanes?
Les nanes, oui. Le biryani au poulet.
Ça, vous le mangez avec les doigts?
Ouais. C'est quand j'étais en résidence d'artiste en Inde, du coup...
Ouais. Alors on est autour de ce livre Au bonheur qui paraît aux éditions Premier Parallèle. Comment l'idée de ce livre vous est venue, le concevoir ensemble, de le cuisiner et de le dessiner ensemble, Liliane?
Je pense que c'est grâce à Nicolas Svet, le mari de Christelle, qui est venu manger plusieurs fois à la maison à l'occasion des Nouvel An chinois, des fêtes, tout ça. Et un jour, il a sorti aussi l'idée. Il dit, pourquoi Liliane, tu ne fais pas un livre? Et là, étincelle. Et j'ai dit, pourquoi pas? Et après, Christelle vient une fois par semaine à la maison pour dessiner, ici, sur cette table. Et moi, je prépare deux ou trois plats, voilà.
Du coup, je l'ai dessiné pendant qu'elle cuisinait. Et aussi, je dessinais les plats qui étaient devant moi, les techniques. Parce qu'on s'est dit, elle a des classeurs avec plein de recettes et c'est dommage que ça soit que dans les petits papiers. Et en fait, ce serait bien pour une transmission par rapport, je sais pas, aux générations suivantes. Et pourquoi pas faire un objet? Et du coup, on a travaillé pendant 3 ans sur ce projet. Il y a eu le confinement, donc ça a coupé. J'ai pas pu venir à Potocombo de Paris. Et ensuite, ça a pu se réaliser grâce à mon éditrice Amélie Petit de Premier Parallèle.
Alors, d'où viennent ces recettes, Liliane?
Alors, les recettes, il y a de tout. Il y a ma tante, des chefs, et aussi des plats que j'aime. J'aime bien manger quand j'étais petite, et j'essaie de trouver leur goût d'authentique. On peut dire que j'ai beaucoup gâché.
Ah oui?
Je jette pas mal de choses, et mon mari à côté n'arrête pas à se plaindre, parce qu'il faut faire comme une sorte de laboratoire des expériences. Voilà.
Est-ce que c'était une manière de recréer un lien aussi avec le pays laissé derrière soi?
Oui, un peu.
Que vous rappelle alors la soupe, je ne sais pas comment on prononce ça, wonton ou aux crevettes?
Ça, c'est une soupe chinoise qu'on mange aussi au Cambodge et puis dans la plupart des restaurants ici.
Mais qu'est-ce que ça vous rappelle? Est-ce qu'il y a un souvenir associé à cette soupe?
Oui, on marchait avec ma grand-mère. En fait, je ne connais pas les prénoms des grands-parents, sauf on dit grand-mère ou grand-père. Parce que dans la coutume chinoise, c'est interdit de prononcer le prénom des parents.
Dans la culture chinoise, on ne nomme pas. On est tante numéro 1, tante voilà. numéro 2, etc.
Ouais. C'est pour ça qu'on ne connaît pas leur prénom du tout.
Et que dire de votre soupe de santé chinoise traditionnelle?
Oui, c'est une soupe que ma grand-mère nous fait souvent. Pour purifier, pour la santé.
Qu'est-ce qu'il y a dans cette soupe?
Il y a des champignons blancs, des longanes, des dattes rouges, des goji et des différentes herbes.
Et pourquoi c'est curatif? Pourquoi ça soigne? Vous savez pas?
Mais quand on mange, il y a un certain effet en sang, mais je sais pas comment. Oui, en sang, on a besoin. Peut-être quand on mange des choses trop de chaleur, on a compensé par... Parce que la nourriture, on distingue, d'après mes grands-parents, nourriture froide et nourriture chaude. Si on a tendance à manger trop de nourriture chaude, il faut compenser par les nourritures froides. C'est comme exemple, le chocolat, les frites. Ça, c'est chaud. Et les, concombre amer, les navets, les pommes ou les champignons blancs. Une catégorie, c'est nourriture qui est froide. Je ne sais pas comment dire ça.
Et tu disais que, par exemple, il y avait une soupe au poulet avec les goji, oui. Que, par exemple, les femmes qui avaient leur menstruation, elles ne pouvaient pas en manger parce que ça activait
le
sang.
C'est le tonkwei. Tonkwei, c'est une sorte de racine gros, robuste, marron. Eh ben, ça, c'est interdit de mettre dans la soupe de poulet lorsqu'on a les règles parce que ça accélère. La perte des règles, voilà, c'est très puissant. Voilà. C'est la seule chose qu'on enlève. Sinon, on met tout dans ça, ça fait circuler le sang.
Et alors, que vous rappelle la salade de mangue verte? Je suis dans votre boîte à souvenirs, là, Liliane. J'essaye, en tout cas. La salade de mangue verte avec des bulots. Alors ça, c'est très étonnant pour moi. Vous mettez des bulots dans cette salade.
Oui, je trouve que c'est un bon mariage.
Ah oui, c'est votre idée.
Oui. C'est mon idée et je pense qu'il existe aussi dans certains restaurants, ils en font, mais pas beaucoup.
Mm-hmm.
Oui.
Moi, j'adore l'entrecôte à la citronnelle. C'est tellement parfumé et l'entrecôte sous la dent. Sinon, comme plat, bœuf basilic thaï avec des petits poivrons qui croquent sous la dent.
C'est quoi le loklak?
Donc là, c'est des cubes de bœuf sautés. Ça existe au Cambodge. Je l'ai mangé à l'âge de 5 ans, au vieux marché très connu, emmené par nos parents dans les soirées. C'est un plat très connu, très réputé, et qui marche très bien.
Mmh. Une dernière question avant de se souhaiter bon appétit. Est-ce que vous êtes retournée au Cambodge, Liliane?
Je suis retournée 30 ans après.
Et
c'était merveilleux. J'ai retrouvé la maison d'enfance et j'en ai demandé gracieusement aux gens que j'habitais ici avant. Est-ce que je peux rentrer jeter un coup d'œil? Et je leur décris exactement comment est la maison et la personne est stupéfiée et me laisse rentrer visiter tout ça.
Ambiance basilic thaï, salade de mangue, crevettes au sel et partition de Mozart, jouée au piano par Christelle et son petit bibi posé sur la tête. Merci à Christelle et Liliane Théa, sans oublier Monsieur, de nous avoir si joliment reçus en sol majeur autour de ce livre « Au bonheur, recette d'une enfance cambodgienne » qui paraît aux éditions Premier Parallèle. En sol majeur, émission à retrouver en podcast sur votre application Pure Radio. Théo Raison, Yasmine Chouaki, on plie nos micros pour se retrouver samedi prochain dans nos studios en compagnie de Riyad Salem. Dans un instant, votre journal, suivi de tous les cinémas du monde.